L'instant addicto. Bonjour à toutes et à tous, Sophie Deloume, l'instant addicto. J'ai le plaisir de recevoir de nouveau Linda Deschamps, infirmière addictologue, et Vincent Morisot, de même infirmière addictologue. Vous intervenez en milieu carcéral sur Poitiers. Donc bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Et on continue notre chronique addicto. On abordait la dernière fois l'accompagnement avec eux, qui est pas toujours simple, hein, comme vous disiez, Linda Deschamps, de donner un peu cet espoir par rapport à eux. Et aujourd'hui, je voulais aborder un peu ce dedans, ce dehors. Il y a cette prison qui est contenant, elle est comme elle est, mais ça pose d'une part question en termes de législation et en termes de soins addicto, et un peu cette sortie qui peut être faite par rapport jeunes et moins jeunes, hein. Cette sortie un peu de retrouver de nouveaux repères, c'est pas simple pour des personnes qui n'en avaient pas. Linda Deschamps.
Ah, pareil, tout dépend de qui on parle. Si on parle du consommateur occasionnel qui se retrouve à être incarcéré pour ça ou autre chose, ou de la pathologie. Souvent, les gens qui sont malades ont déjà rencontré les soins, même avant la détention. Ça, c'est une certitude. Ensuite, quand ils sortent, eh bien, après, c'est comme l'hôpital, hein, c'est sectorisé, c'est... nous, sur Poitiers Vivonne, on reçoit des patients de toute la France. Mais ceux qui restent sur Poitiers sont suivis par nos collègues à Poitiers, à l'extérieur.
Et en termes d'accompagnement, comme on disait, de prise en charge en milieu carcéral, hein, ce que vous disiez, c'est vraiment la rencontre et le lien avec eux, puisque c'est des personnes maladies du lien au niveau des addictions. On sait qu'il n'y a pas de soins particuliers, par exemple, des consommateurs de cannabis. Donc un peu dans l'accompagnement concret. Concrètement parlant, pour que ça soit clair pour les auditeurs, comment on fait un accompagnement au milieu carcéral quand il n'y a pas de substitut comme on connaît au niveau de la méthadone, par exemple.
Pour le cannabis, on a quand même la prescription de substituts nicotiniques à haute dose, où on a vu qu'on avait quand même des... Alors moi, j'utilise ça, on a vu qu'on avait quand même d'assez bons résultats. Hein. Et puis, si on ne peut pas s'attaquer directement au cannabis, on va s'attaquer au tabac.
Une première entrée.
Et ça fonctionne si... Mais tout part de la décision du patient. Si effectivement, il est décidé à changer son comportement, ça fonctionnera. Voilà. Avec ou sans substitut.
C'est pour ça qu'on parle souvent aussi on parlait de responsabilisation tout à l'heure, hein, Vincent Morisot, mais moi j'ajouterais aussi le libre arbitre. À un moment donné, voilà, c'est le patient qui décide s'il veut une réduction, s'il veut complètement arrêter, tant qu'il n'est pas adhérent. Il ne faut pas que ça soit. Je sors un peu du milieu carcéral, mais quand on voit un peu des fois la pression entre guillemets de l'entourage, il y a la souffrance ou le jugement de l'entourage, mais c'est pas l'entourage qui va décider. On se rend compte, c'est comme les personnes qui vont faire des cures et que ça rechute énormément derrière. Tant qu'il n'y a pas un travail en amont de fait décisionnaire, mais de la personne, on n'arrive pas à grand-chose.
Pour ça, il faut avoir des perspectives. C'est-à-dire qu'on peut prendre une décision, mais si on sort de détention et qu'on a, par exemple, alors je vais être très basique, hein, mais pas de logement, il me semble assez logique d'aller chercher son alcool et de se mettre dans la rue et de reconsommer, même si on a une obligation de soins ordonnée par la justice, etc. Enfin, quel sens ça a si on n'est pas sécure ? Ça n'a pas de sens.
Oui.
Là, ça n'a pas de sens.
Je pense que c'est important de ce que vous dites dans les besoins un peu primaires, d'être sécure et voilà, cet accompagnement, on voit avec le manque de logement, mais que si la personne n'a pas un projet de vie et un minima pour se protéger au niveau sécure, voilà. Et comme vous disiez tout, la dernière émission, un peu les obligations un peu citoyennes d'aller travailler, mais si, voilà, pour ça que le toit est essentiel au départ.
Notre travail est à la croisée des chemins, effectivement, entre le soin et le social. Nous, on fait beaucoup d'accompagnement social, de manière très triviale. Moi, j'ai l'habitude de dire, s'il n'y a pas de logement, je ne peux pas travailler, quoi.
Et la difficulté, j'imagine, dites-nous sur Poitiers, pour les gens de Poitiers.
Oui.
Partout pareil. Hein.
Partout pareil, je crois que c'est... Ouais. Non, c'est très, très difficile. Les listes d'attente sont longues, les loyers sont chers. Et puis, on ne fait pas confiance aux gens. Ils sortent de prison et ils sont malades. Alors, dites-vous bien que ça complique un peu les choses.
On fait la pause musicale. Vous avez choisi, c'est le tour de Linda.
J'ai choisi la chanson de Rose, hein, qui s'appelle « L'inconnu ».
On écoute.
Mon cauchemar, c'est celui de plein d'autres gens. Sauf que c'est le mien. Que personne ne le soupçonnait. Même pas moi. Il faut remonter le temps toujours pour comprendre le présent. Il faut accepter de faire du ménage pour mesurer l'ampleur des dégâts. Il faut s'asseoir un moment pour réaliser que de toute façon, on ne tient plus debout que machinalement, artificiellement, frénétiquement. On ne tient plus debout que mensongèrement.
J'ai presque tout bon à quelques exceptions qui confirment la règle que je serai jamais en règle. Avec la vie, l'espoir, ce qu'on devrait savoir pour survivre à l'histoire, à l'abîme du hasard. J'ai presque tout bon si on met de côté mes quelques addictions, mes quelques libertés. De me perdre la nuit, souvent pour le chercher, celui-là, celui qui me rendra la paix. J'aurai jamais tout bon, je résoudrai jamais une simple équation et j'en ai rien à cirer. J'aurai jamais tout bon, ce sera toujours foutu, puisque de toute façon c'est moi l'inconnu. J'ai presque tout bon si on souffle sur mes regrets, si on met du goudron sur mes routes cabossées. J'ai presque tout bon et dans le presque il y a tout, tous les déboires et les fonds qui font ce que je doute. J'ai presque tout bon, j'ai presque tout raté, j'en sais pas plus qu'avant, sauf qu'au moins je le sais, que j'ai perdu mon temps à vouloir expliquer le pourquoi du comment j'avais pu échouer. J'aurai jamais tout bon, je résoudrai jamais une simple équation et j'en ai rien à cirer. J'aurai jamais tout bon, ce sera toujours foutu, puisque de toute façon c'est moi l'inconnu.
Vous écoutez l'Instant Addicto. Sophie Delong, j'ai le plaisir de recevoir Linda Deschamps et Vincent Morisot, tous les deux infirmiers addictologues et qui interviennent en milieu carcéral. On abordait justement de comment un peu renaître de tout ça, comment accompagner la personne, comment réaliser des sevrages en milieu carcéral. C'est quand même bien particulier. On se rend compte déjà d'accompagner des personnes à l'extérieur, c'est compliqué, mais en étant dans un milieu fermé, c'est difficile. Je voulais juste aborder, est-ce que vous arrivez à constituer des groupes de parole par rapport à, voilà, des choses qui puissent créer une dynamique dans l'entre-soi, et un peu, est-ce que c'est vraiment porteur?
Alors, on fait du suivi individuel, hein, bien évidemment, et on propose aussi du groupal, alors avec ou sans thème. Et là, on est arrivé à quand même quelque chose même de personnalisé, hein, je suis contente de le dire, Vincent, parce que c'est quand même ce qu'on va proposer bientôt, c'est-à-dire parler addicto, mais aux personnes atteintes de pathologie mentale. Donc, on commence à être très spécialisé. Et bien sûr que le groupe fait sens, et bien sûr que la paire aidance, alors on essaie de travailler autour de ça, c'est pas encore arrivé sur Poitiers-Vivonne. On espère pouvoir travailler autour de la paire aidance très bientôt. Voilà, mais le groupe fait sens, ça c'est sûr. Les plus âgés avec les plus vieux, très, très souvent, ça fonctionne bien.
Intergénérationnel. Et au niveau de Vincent Morisot, en tant qu'infirmier addicto tout jeune, ce regard que vous avez en tant que jeune infirmier addictologue sur le terrain milieu carcéral?
Je crois qu'elle est situation dépendante, cette réponse-là. Encore une fois, j'ai pas énormément de recul, moi, pour pouvoir donner un avis très abouti là-dessus. Ce que je pense et ce que je pensais avant d'arriver dans ce milieu-là, c'est que c'est une réponse qui me semble pas très adaptée, parce que je trouve que la logique répressive et punitive d'une manière générale dans la vie est pas très efficace.
Et c'est pointé du doigt par le quatrième rapport de l'ONU de 2023, c'est
doigt,
pour dire.
Ça fait un moment et on
qui pointe la France.
Bah, on est très en retard par rapport à tout un tas de pays dans le monde et chez nos voisins européens aussi. Après, voilà, on pourrait développer ce sujet-là à travers plein de réflexions. Enfin, je vais raconter une anecdote là qui fait beaucoup sens parce que elle est arrivée dans ma vie au moment où moi je venais d'arriver au XAPA carcéral. J'ai une copine qui m'a raconté il y a pas longtemps que elle avait acheté en Soum Soum un paquet de cigarettes avec son frère. Elle avait 12 ans, lui 10. Ils se sont fait griller par ses parents. Sa mère n'a a réagi de la manière suivante, c'est-à-dire qu'elle n'a rien dit, elle est partie faire une petite course, elle est revenue avec un paquet de cigarettes qu'elle a donné à ses enfants, et elle a dit « voilà, allez-y ». Ils ont fumé le paquet de cigarettes en présence de leurs parents pendant une semaine, et quand le paquet eut été fini, ça a été les dernières consommations de leur vie. Ni l'un ni l'autre n'a refumé derrière, comme si les choses avaient fait plouf. Alors voilà, la question de la transgression, elle fait évidemment pas sens pour toutes les situations, mais je trouve que c'est quand même très parlant. Voilà, c'est une anecdote qui vaut ce qu'elle vaut, mais en tout cas cette logique-là, moi je trouve, de stigmatisation et donc de répression derrière, est pas l'idéal, sachant que si on pense d'un point de vue budgétaire, parce que c'est un peu le nerf de la guerre aussi dans les réflexions politiques, tout l'argent qui est utilisé pour réprimer, pour faire un peu la guerre à ça sur le terrain, c'est de l'argent qui pourrait être utilisé
en on en a besoin.
Autrement, évidemment, en prévention, mais pas qu'en prévention, en soins aussi. On parlait de la jeunesse la dernière fois. Aujourd'hui, on sait bien que le système de santé est un petit peu en déroute, en souffrance en tout cas. Faut pas oublier que dans le champ de la psychiatrie, spécifiquement, c'est en pédopsychiatrie qu'il y a le plus de carences aujourd'hui. Qu'on fait le constat là, mais les répercussions, elles se verront vraiment que dans quelques années. Qu'effectivement, il est encore temps de réagir probablement et d'ajuster, mais si on reste dans cette logique-là, ça risque d'accentuer le problème.
Après, si on parle essentiellement de la répression du consommateur, parce que il ne faut pas oublier qu'on est à Poitiers-Vivonne, c'est un centre de détention. Les gens, on a une minorité de gens qui sont incarcérés pour avoir consommé plusieurs fois après avoir été en sursis, etc. Après, on a tout un tas d'autres raisons d'incarcération qu'on ne peut malheureusement pas commenter parce qu'il faut une réponse sociale. Enfin, je veux dire, un coup dans la société, là, la réponse qu'on peut offrir qu'on donne aujourd'hui, en tout cas pas offrir mais qu'on donne, c'est l'incarcération, mais est-ce qu'on a d'autres solutions?
Après, je pense que c'est un débat de société de savoir que la réponse carcérale n'est pas forcément la meilleure. Mais qu'est-ce qu'on met à la place, il y aurait des choses à créer en lien avec les addictions. Je sais pas si vous pouvez le dire, est-ce que c'est plus lié au cannabis, les personnes que vous accompagnez, consommateurs ou trafiquants, est-ce que c'est une dominante par rapport à ce produit? Ce serait intéressant de le savoir où on en est aujourd'hui ou non.
Moi, dans mon exercice, que je vois de moins en moins, c'est de grands consommateurs d'alcool. Ça, je pense qu'on est passé vraiment à autre chose. Après, le cannabis, j'ai plutôt tendance à dire que ça toucherait plutôt plus nos jeunes ou alors nos anciens, mais qui consomment aussi autre chose.
Ouais.
Moi, je fais pas trop de différence, mais les dégâts sont les mêmes. Ouais.
Oui,
alors,
on
peut avoir plus peur de des produits comme l'héroïne, la cocaïne, etc. Au final, le
résultat est le même. On le sait en addictologie. Vincent.
Oui, j'allais dire que c'est probablement une porte d'entrée, le cannabis, pour beaucoup. C'est-à-dire que ça fait partie généralement des premiers produits consommés par les jeunes, sans avoir forcément l'idée pour ces jeunes-là que c'est une substance psychoactive qui n'est pas anodine et qui, quand on regarde ses répercussions sur un cerveau vulnérable, si on pense qu'aux morbidités psychiatriques par exemple, pas forcément avec les grandes pathologies comme la schizophrénie ou quoi, mais les personnes un petit peu vulnérables, un petit peu fragiles sur le plan de l'humeur par exemple, un peu qui se coule, qui est pas forcément repéré par les gens à la base, avec des espèces de sensations de détente. Ça met le voile un peu des fois aussi sur des problèmes qui veulent être un peu mis de côté, mais avec sur le moyen long terme des répercussions un petit peu plus insidieuses, avec ça se transforme en paranoïa, en persécution. Alors c'est un truc qui est très connu, mais qui est pas forcément repéré par les gens. Et moi j'ai un peu cette idée là, c'est que quand les gens sont pas très bien, faut pas oublier que ils signent pas un contrat de bon cœur avec les drogues, donc c'est des personnes qui tombent un peu dedans et qui à un moment donné se rend compte qu'il y a perte de contrôle et qu'il n'y a plus de plaisir, quoi. Ça les isole, des autres, ça les isole un peu d'eux-mêmes aussi. Ils savent même plus ce qu'est leur état basal, quoi, pour certains. Et du coup, je pense que ce produit, c'est intéressant de le regarder quand même. Même si je suis d'accord avec Linda, il ne faut pas non plus considérer que les problématiques s'expriment différemment après selon ce qui est consommé. Mais en tout cas, c'est une porte d'entrée où il y a des choses à savoir et qui, nous, c'est important de leur rappeler que ce n'est pas banal de consommer du cannabis parce qu'ils ont tendance, eux, quand même, à le ranger du côté des produits pas très dangereux. Et que c'est peut-être ça aussi dans la tête des gens à l'extérieur. Je ne sais pas, c'est peut-être juste une représentation que j'ai, mais...
Non, mais je vous remercie pour vos interventions. Merci Linda Deschamps, Vincent Morisot. À la semaine prochaine. L'instant addicto.